Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, c'est bon d'être ensemble ce matin. Et je te prie que cette étude puisse affermir nos foyers. Tu vois, en tant que parents, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, épouse, nous avons des grands défis. La vie est un grand défi, mais avec toi, nous ferons des exploits. Rien ne t'est impossible. Et Seigneur, si ce plan de Dieu nous semble parfois si élevé, alors c'est une occasion pour nous de nous humilier et de nous mettre à tes pieds pour te demander, Seigneur, de le rendre possible en nous, au travers de nous, autour de nous, afin que ton nom soit glorifié. Merci de garder nos cœurs et nos pensées ce matin. Je te prie que nous puissions aller à l'essentiel et que ça puisse être comme une instruction dans nos vies. Pas simplement entendre quelque chose, mais aussi vouloir le mettre en pratique. Alors Seigneur, donne-nous de la sagesse à écouter, de la sagesse aussi pour en parler et que ton nom seul soit glorifié. Merci d'être avec ceux qui sont peut-être loin de nous, ici, qui auraient aimé être là, ici, ce matin. Merci de les garder, ceux qui sont peut-être souffrants. Merci de les soulager par ta bonté. Au nom de Christ. Amen. Alors, le sujet de... Excusez, je pense que... Alors, le sujet, c'était Christ au centre de la famille. Est-ce que Christ est vraiment au centre de la famille? Vous savez, je ne sais pas si c'est parce que je commence à vieillir. Enfin, on vieillit tous, mais je me dis, les années passent, on a acquis certaines choses, puis il y a un temps où on a envie vraiment que d'autres puissent avoir la même chose que Dieu nous a enseigné. C'est si précieux de pouvoir passer des grandes vérités, des choses qui peuvent vraiment façonner toute la vie et ainsi nous amener dans les voies de Dieu. Donc ce matin, on va regarder ce que c'est que la famille de Dieu. On va regarder, pour une bonne compréhension de la vie en famille, ce qu'est le plan de Dieu pour le mariage, les responsabilités de l'épouse, les responsabilités de l'époux, une philosophie commune de l'éducation des enfants, l'adoration en famille. Alors, je ne sais pas si le dernier point, nous aurons le temps de les couvrir, mais certains sourient parce qu'ils connaissent le livre, n'est-ce pas, qui a préparé leur mariage, d'où est tirée cette étude, mais dont c'est une bonne révision. On va commencer à regarder le plan de Dieu pour le mariage. Et sans tarder, je vous invite à prendre la Bible en Genèse chapitre 2. Quand Dieu a-t-il institué le mariage? Savez-vous que le mariage est une institution divine? C'est Dieu qui a institué le mariage. Même si les hommes parfois veulent le déformer ou le transformer ou... essayer de l'annuler, ben, c'est une institution de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Et on lit en Genèse chapitre 2, verset 18, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et il s'en souvint, c'est extraordinaire, Adam avait une sacrée mémoire, hein, entre parenthèses, et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce verset qu'on aimerait souligner pour commencer, c'est le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ce texte de base qui nous parle en fait du plan de Dieu pour le mariage. En fait, ce texte se trouve 4 fois dans la Bible. Une fois dans l'Ancien Testament, en Genèse, donc avant la chute, et 3 fois dans le Nouveau Testament, en Matthieu, en Marc et dans l'Épître aux Éphésiens. Voyez-vous, le plan de Dieu s'applique non seulement avant la chute, avant que Adam et Ève pêchent, mais après la chute, pour les pécheurs que nous sommes. Donc le plan de Dieu, ce n'est pas un plan, à cause du péché certainement qui a été déformé, mais le plan de Dieu, c'est le mariage à vie. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que ce soit avant la chute, que ce soit après, donc, malgré le péché, les évangélistes et l'apôtre Paul ont repris le texte pour démontrer que le plan de Dieu pour le mariage, c'est le plan qu'il a institué avant la chute et qui donc s'applique après, même à des pécheurs que nous sommes. Il y a trois principes ici qui sont mentionnés dans le verset. C'est quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme et devenir une seule chair. Alors dans le monde actuel, il y a parfois inversion. Il y a des gens qui forment une seule chair, qui s'attachent également, éventuellement, puis qui quittent père et mère, enfin pour se marier peut-être plus tard. Mais il y a une déformation du plan de Dieu et parfois inversion et même parfois destruction. En fait, quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire évidemment les abandonner. Hein, notre frère Johan s'est réjoui d'avoir la visite de son papa. Moi, je me suis réjoui d'avoir la visite de notre fils David et son épouse. Et ainsi, ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on abandonne ses parents, ou qu'on les méprise, ou qu'on ne veut plus les voir, ou qu'on ne communique plus avec eux. En fait, quitter son père et sa mère, c'est garder une relation avec eux, mais différente, une relation d'adulte à un adulte. Il y a parfois des parents, parce qu'ils ont élevé leurs enfants de façon conditionnelle, « je t'aime si tu », ou de façon manipulatrice, ou de façon despote, j'exagère, ou de façon à créer des dépendances émotionnelles, mais ce n'est pas la façon avec laquelle les parents doivent élever les enfants. Les parents doivent élever les enfants pour qu'un jour ils quittent le nid, n'est-ce pas, familial, se marient, volent leurs propres ailes et se réjouissent de voir la bonne direction que prennent leurs enfants. Mais les enfants, une fois qu'ils se marient, doivent faire de leur relation conjugale la priorité. L'homme qui se marie entre dans une relation prioritaire qui est sa femme. Ce ne sont plus ses parents. La priorité, c'est évidemment être en communion avec Dieu. La deuxième relation prioritaire, c'est son conjoint. Et la troisième, ce sont ses enfants. Et bien sûr, les parents, la famille. Dieu dit que celui qui méprise les siens, n'est-ce pas, est pire qu'un infidèle. Dieu nous demande de nous occuper de nos parents et de les aimer. Et même la Bible dit, honore ton père et ta mère, hein, et tu vivras longtemps. Il y a même une récompense à ceux qui honorent père et mère, et ça c'est toute la vie. Moi je demande à ceux qui ont eu la joie de se marier et puis d'avoir leur pasteur comme célébrant, je leur demande moi à un moment donné de remercier les parents de ce qu'ils ont fait. Alors des fois il y a eu des cas difficiles, mais on peut toujours remercier les parents. Alors, remercier un père et une mère, c'est... il y a une occasion unique, le mariage, de dire merci à son père et à sa mère. D'accord, donc c'est une renouvelle relation, et donc quitter n'est pas abandonner, mais c'est entrer dans un autre modèle. Et j'ai dit, je crois à Rehoboth, je vous le confie, personnellement j'ai une philosophie, c'est que quand mes enfants se marient, pendant presque un an, je ne me manifeste presque pas. Même si j'ai envie de prendre le téléphone, vous savez, il y a des belles-mères ou des mamans qui appellent tous les jours. Non, moi je pense que ça y est, ils sont lancés, ils doivent apprendre à vivre d'eux-mêmes. Si téléphone, on se réjouit, si nous visitons, on se réjouit. Bien sûr, on va aller voir, on les appelle de temps en temps. Mais on ne cherche pas à s'initier dans leur vie. C'est leur vie de couple, ils doivent apprendre à vivre devant Dieu et en espérant que ce qu'on leur a enseigné leur est utile et qu'ils le mettent en pratique pour être des hommes et des femmes en tant que mari et femme devant Dieu. Ensuite, il y a le deuxième concept, enfin principe, c'est s'attacher. S'attacher, c'est d'être fidèle. Alors, on va peut-être le développer dans... C'est ça ? Excusez, je suis en retard. C'est le mariage, selon Dieu, implique l'engagement total et fidèle de deux personnes l'une envers l'autre. C'est un engagement. C'est pour ça qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui, vu un peu le contexte de notre société qui ont peur de s'engager à cause de ce qu'ils voient autour d'eux. C'est vrai que quand on sait que les pourcentages de divorce sont 50-60% selon des statistiques, et même au Québec, un jour j'ai rencontré une dame qui était divorcée et qui ne voulait pas se remarier, elle vivait avec un autre homme, et je lui ai parlé de plusieurs choses concernant le mariage. Elle a dit non, moi je ne veux pas me remarier, j'ai vécu quelque chose de très difficile. Et en fait, au Québec, je ne sais pas ici en France, mais 75% des gens divorcés qui se remarient, redivorcent. Voyez-vous, c'est un engagement le mariage, mais quand on se marie, il faut comprendre que c'est un engagement de volonté à aimer quelqu'un pour la vie. Et ensuite, c'est devenir une seule chair. Alors, évidemment, dans le contexte du mariage, la première idée qui nous vient à l'esprit, ce sont les relations sexuelles. Dieu bénit les relations sexuelles dans le lien du mariage. C'est l'apogée de l'amour, de l'expression affective, physique et même, je dirais, spirituelle. Mais ce n'est pas simplement cela, devenir une seule chair. En fait, le mariage est l'engagement total et le partage total d'une personne tout entière avec une autre jusqu'à la mort. Devenir une seule chair, c'est arriver à une communion d'esprit avec une unité profonde qui inclut l'unité physique. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des relations sexuelles et qui n'ont pas cette communion d'esprit et qui trouvent ça difficile. Je me souviens dans un camp où il y a une jeune fille qui a osé dire devant tout le monde « Oui, mais les jeunes, il faut avoir des relations sexuelles avant de se marier. Et si ça ne marchait pas, si on n'était pas fait l'un pour l'autre physiquement ?» Alors j'ai dit « Écoutez, mademoiselle, j'ai dit, enfin, je peux dire mademoiselle, mais écoutez, j'ai dit, Dieu a fait bien les choses. Et un homme et une femme qui s'aiment, en général, il n'y a pas de problème physiquement. Ce n'est pas un problème physique. C'est ce qui a précédé l'acte sexuel ou le cas dans lequel l'acte sexuel se fait. Quand il y a des problèmes sexuels, même dans le cadre du mariage, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées avant le mariage. Et en fait, devenir une seule chair, c'est plus qu'une relation sexuelle. C'est l'apogée, la relation sexuelle, mais c'est une démonstration d'unité. Et devenir une seule chair, je pense que c'est l'être tout entier, corps, âme, esprit, ça prend toute une vie d'apprentissage avec peut-être ses hauts et ses bas, ses combats, ses défaites, mais aussi ses grandes victoires. Alors on va regarder, si vous voulez bien, avant d'aller plus loin, Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 16. Maintenant, il y a beaucoup, moi je vais dans des mariages maintenant, des neveux, des cousins. Alors la méthode maintenant, c'est on vit en concubinage et puis bon, après quelques années, on se marie. Ça fait un peu drôle cela, mais il y a une crainte chez un jeune homme, une jeune fille de s'engager. Est-ce possible de s'engager aujourd'hui dans les liens du mariage et puis de s'engager à être fidèle, de s'aimer jusqu'à la mort, dans les bons comme dans les mauvais jours? Je vais raconter une fois l'histoire d'un ami de mes parents, ingénieur, dont l'épouse est tombée malade, sclérose en plaques. C'est un homme très brillant qui a abandonné complètement sa carrière professionnelle pour s'occuper de sa femme pendant 20 ans. Ça, c'est un exemple là, de loyauté jusqu'à la mort. Alors, je me dis, mais est-ce que c'est possible de s'aimer en tant qu'homme et femme? Alors, dans le Seigneur, oui, c'est possible. Et je vous invite à regarder Éphésiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, car il est notre paix, c'est Jésus-Christ, lui qui des deux, alors il s'agit ici du contexte juif et païen, hein, il faut d'abord regarder, interpréter de façon juste le texte, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, c'est-à-dire la croix, Jésus-Christ a donné son corps à la croix pour justement créé par son esprit une église qui est composée de juifs et de païens, par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Vous savez, les juifs et les arabes qui se convertissent au Proche-Orient, bien, une fois qu'ils sont dans le Christ, ils ne forment qu'un. Et moi j'ai rencontré des Palestiniens et des Juifs s'embrasser, louer le Seigneur ensemble, et qui certainement devraient être un modèle pour le reste de cette région, parce qu'en Christ, nous ne sommes qu'un. C'est merveilleux cela. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, enfin je ne sais pas s'ils existent, etc. On est un en Christ, c'est merveilleux cela, c'est la famille de Dieu. Et de les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il veut annoncer la paix. Ce que Dieu veut, c'est établir la paix dans un couple. Est-ce que c'est possible de vivre une vie de couple toute la vie? C'est une bonne question cela. Est-ce que c'est pour la vie? Je m'engage. Est-ce que ça va durer? Quand je vois autour de moi, je peux me poser la question, est-ce que ça va durer? Et donc, est-ce que je vais m'engager? Alors, l'homme et la femme ici entrent dans une relation particulière et prioritaire, et lorsqu'ils mettent Dieu au centre de leur vie, alors parce qu'ils sont en relation, et donc ça montre qu'il faut être en Christ, lorsqu'ils sont en relation l'un et l'autre avec Dieu, leur relation devient de plus en plus intime et rapprochée. Plus le couple se rapproche de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. C'est merveilleux cette illustration. Il faut garder ça dans l'esprit, les gens mariés, puis les futurs mariés. Même les célibataires, il y a l'espoir encore pour vous. Hein. Vous allez vous marier. Je sais qu'il y en a qui pleurent, qui gémissent, qui attendent. Il est bon d'entendre en silence devant l'Éternel. Puis moi je dis à ceux qui sont impatients, celui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient à l'Éternel. Une grâce, c'est un don. Alors si vous êtes un don, attendez que Dieu le présente à votre futur conjoint, si vous êtes une fille. Et si vous êtes un jeune homme, attendez que Dieu vous présente la grâce. N'allez pas chercher ce que Dieu ne vous donne pas, mais attendez la grâce de Dieu. C'est une grâce d'avoir une épouse. Et c'est une grâce d'une épouse d'être choisie pour être une grâce avec un homme. D'être une grâce envers un homme. C'est la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans le Seigneur. Et Dieu dit qu'il faut se marier dans le Seigneur. De croyants se marient l'un vers l'autre. Et dans le Seigneur, croyants, parce que proche de Dieu, parce que Dieu a ce plan d'une vie intime pour la vie en se rapprochant l'un de l'autre. C'est possible en Christ. Parce que lui, il pardonne nos péchés, nos erreurs. C'est possible en Christ parce que lui, il est amour. C'est possible en Christ parce qu'il est plein de miséricorde, de compassion, et que la charité couvre une multitude de péchés. Quelqu'un a dit, l'amour aveugle, mais le mariage rend la vue. Ça fait sourire tout le monde. Mais le vrai mariage, c'est s'aimer et d'aimer l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est une grande vérité, cela. Aimer, c'est une volonté. Et c'est possible grâce à Jésus-Christ, qui est le centre, qui est la source de la paix, du pardon, de l'amour, de la joie. Alors, on va regarder ensemble les responsabilités de l'épouse. Rassurez-vous, on regardera après les responsabilités de l'époux. Comme a dit quelqu'un à Rebot, on aurait dû passer juste un message par sujet. Mais c'est un survol, et j'espère qu'on va retenir l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de l'épouse? On va regarder en Éphésiens. Éphésiens, quand Paul a écrit, il a écrit quelque chose de merveilleux au sujet du mariage, parce qu'il a comparé la relation du mari et de l'épouse avec la relation de Christ et son Église. C'est merveilleux cela. Et même il parle comme d'un mystère, d'une chose extraordinaire. Il dit « Ce mystère est grand », verset 32, chapitre 5. « Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église ». Alors, qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul? On commence ici au chapitre 5 et au verset 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari. » Et là, je sais que quand on parle de soumission, il y a des épouses ou des futures épouses qui commencent à se sentir un petit peu mal à l'aise et puis tendues, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'être soumis? Est-ce que je dois me soumettre? Ah ben oui, tu dois te soumettre, ma sœur, mais dans le Seigneur. On va dire ce que c'est. Que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Voyez-vous, c'est écrit que chacune soit soumise. Moi, je me souviens, en tant que pasteur, alors vous ne connaissez pas ces gens-là, je peux en parler, vous ne les connaîtrez pas, et je me souviens d'avoir visité une famille, une épouse dit à mon mari, de l'air de dire, c'est un bon à rien, il ne fait rien, il faudrait que je me soumette à mon mari, c'est moi qui dirige. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais cette sœur-là, elle ne comprend pas le message de Dieu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Que ton mari soit fort ou faible en tant qu'homme dans certaines choses, la Bible dit que chacune soit soumise. Même la femme qui semblerait avoir plus de caractère que son mari, elle doit être soumise. C'est une volonté de se mettre dessous quelqu'un. Ça vous plaît, ça? Je dis, oh, c'est difficile à accepter. Et pourtant, c'est ce que dit la Bible ici. Que chacune soit soumise à son maître. Ah, mais moi, j'ai un caractère, il faut que je commande. Ah, ben oui, justement, tu dois apprendre à obéir afin d'être un bon leader. Vous savez, Josué, il a passé beaucoup de temps auprès de Moïse avant d'être un leader. Obéir, c'est la première marche vers être un chef. Il n'y a pas de chefs qui sont de vrais chefs si d'abord ils n'ont pas appris, eux, à se soumettre envers d'autres. Parce qu'on est tous soumis, quelque part, à quelqu'un d'autre dans la vie. Même, on y viendra plus tard. Donc, bon, que chacun soit soumis à son mari, comme au Seigneur. Et puis, au verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. » Oh là là, là, vous exagérez. Non seulement vous parlez de soumission, Paul, tu parles de soumission, mais tu dis en toute chose. Moi qui croyais qu'il y avait des endroits où je pouvais quand même penser que je pouvais échapper à la soumission. C'est écrit en toute chose. En toute chose. Wow. Heureusement que Paul a dit « comme au Seigneur ». Ça soulage un petit peu. Bon. En fait, si on regarde Genèse chapitre 2, verset 18, l'autre principe fondamental du rôle de l'épouse, c'est d'être une aide envers son mari. Voilà quelque chose qui est peut-être pas très bien compris. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. Quand on a besoin d'aide, c'est qu'on est incomplet, c'est qu'on a une faiblesse ou qu'on n'est pas capable de faire entièrement ce qu'on veut faire ou penser ou agir. On a besoin d'aide. En fait, Dieu a créé la femme proche du mari pour être une aide envers son mari. Il y a vraiment une joie, je pense, chez l'épouse qui prend cela à cœur et qui cherche à venir en aide à son mari. Alors reconnaissons nos faiblesses, les maris, et pensons que vraiment nous avons besoin d'une aide à côté de nous. C'est notre épouse. C'est indispensable. Et l'épouse est d'autant joyeuse parce qu'elle est dans le plan de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Qu'elle vient en aide, qu'elle cherche toujours à faire du bien envers son mari. Donc à partir du moment où elle cherche à faire du bien à son mari et qu'elle cherche vraiment et qu'elle cherche à faire du bien de comment le faire, qu'elle le trouve, mais elle est dans la joie du Seigneur. Mais ça demande quoi cela? Ça demande d'être remplie du Saint-Esprit. Une femme ne peut pas être soumise à son mari si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit comme au Seigneur. L'Église ne peut pas connaître la plénitude de la vie en Christ si elle n'est pas soumise à Jésus-Christ, si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. C'est contre notre nature d'être soumis. La Bible dit qu'on a tous des cœurs de rebelles. Vous pensez que les enfants naissent en chantant Alléluia, en naissant jamais. Mais à la première occasion, on peut voir la rébellion, parce que c'est dans le cœur de l'homme. En naissant, on a un cœur rebelle contre Dieu. Nous sommes, dit la Bible, des enfants de colère. Et donc, notamment, nous n'aimons pas nous soumettre. La preuve, le manque de respect qu'il y a envers les autorités, notamment dans notre pays, je trouve. C'est incroyable ce que la presse et le commun des mortels dans notre pays attaquent les autorités en général. Mais c'est un manque de respect envers nos pères, PARS. C'est un manque même d'amour, je dirais. Et c'est un manque aussi, parfois, de volonté de se soumettre pour ce que pourtant Dieu a établi. Et c'est vrai, parfois, pour l'épouse qui doit apprendre à se soumettre. En fait, Dieu a donc ce double principe, se soumettre en toute chose et être une aide. Alors, se soumettre en toute chose, la Bible dit en Éphésiens 5, verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » La soumission, c'est quelque chose qui s'adresse à tous. Ce n'est pas simplement l'épouse qui doit être un modèle de soumission dans le cadre du mariage. La soumission est une attitude positive que Dieu demande et qui est le reflet de quoi ? D'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et qu'est-ce qu'on est quand on est rempli du Saint-Esprit ? Verset 19, on chante des cantiques comme on a fait ce matin. De tout notre cœur, célébrant de tout notre cœur le nom du Seigneur. Puis on rend continuellement grâce à Dieu. On loue le Seigneur, puis on a des actions de grâce. Quand on vient à l'Église, qu'on est rempli du Saint-Esprit, on loue le Seigneur dans son cœur et on rend grâce à Dieu parce qu'on est reconnaissant de ce qu'il est et de ce qu'il fait dans nos vies. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu dit? Au nom de Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Tiens, un des fruits d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la soumission réciproque. D'ailleurs, elle existe dans le mariage. Hein? Le mari n'est pas un dictateur. La soumission, c'est pas se soumettre à un dictateur, c'est se soumettre à la volonté de Dieu et au plan de Dieu et au mari. Alors, je n'ai pas dessiné ça malheureusement sur le PowerPoint, mais imaginez un parapluie. D'accord? Vous imaginez un parapluie comme ça. Ça, c'est le mari. Et puis il pleut, ou il vente, peu importe, et l'épouse se met à côté du mari. Là, elle est protégée par le parapluie. S'il y a un trou dans le parapluie, ah, là, elle n'est pas très bien protégée. Ou si elle se décarte du parapluie, elle se met plus loin. Elle n'est plus dans le plan de Dieu. Elle n'est pas protégée. Si le mari ne joue pas son rôle, elle est exposée. Mais si elle ne joue pas son rôle, elle s'écarte de la protection divine. C'est une illustration, c'est une image. Un parapluie. Savez-vous que votre mari est un parapluie pour vous? Alors, il faut qu'il soit pas troué, mais il faut aussi être en dessous, respecté. Donc, en fait, se soumettre, c'est un principe pour tous. Et là où on en est vraiment convaincu, parce qu'on croit que Jésus-Christ est le modèle parfait, regardez avec moi 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il est écrit, c'est Paul qui l'écrit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, donc elle doit être soumise, et que Dieu est le chef de Christ. » Voyez-vous, Dieu ici dit, un texte inspiré, la parole de Dieu, que l'homme est le chef de la femme, comme Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Christ était inférieur à Dieu? Non. Est-ce que Christ est inférieur à Dieu? Est-ce que la femme est inférieure à l'homme? Non. Donc elle doit apprendre aussi à se soumettre de la même façon que Christ s'est soumis à Dieu le Père. Dieu, Jésus-Christ a accepté de s'humilier, de descendre du ciel, de marcher sur la terre, et puis il a accepté cette dépendance totale avec Dieu le Père dans un acte de soumission volontaire. Donc la soumission, c'est quelque chose de volontaire qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un, et c'est un concept qui est positif et non pas négatif. Et il y a une grande bénédiction dans l'esprit de soumission. Je crois que ce matin, on n'aura pas le temps de regarder, malheureusement, ou de mettre l'accent sur l'éducation et particulièrement le rôle des pères, mais on y reviendra. Revenez, on y reviendra. D'accord? Mais l'idée, c'est que les parents doivent attendre à une soumission immédiate envers leurs enfants. Quand j'ai compris ce concept, notre façon d'élever nos enfants a complètement changé. Quand il a été demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, « Va sacrifier ton fils, Isaac. » Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a tourné dans son lit pendant une demi-heure pour se poser vraiment la question si Dieu lui demandait quelque chose de sensé. C'est ça qui est écrit dans nos Bibles. Il s'est levé de bon matin. Il a obéi immédiatement au Seigneur. Il avait cette confiance absolue en Dieu le Père. Et il était prêt à sacrifier son propre fils. En hébreu, heureusement, il nous est écrit comme pour le recouvrir d'une sorte de résurrection. Mais il était prêt à voir son fils sacrifié parce que l'obéissance envers Dieu le Père était quelque chose pour lui de fondamental et une obéissance immédiate. Quelqu'un a dit, lorsqu'un parent demande une chose à son enfant et que l'enfant refuse, c'est l'enfant qui pêche. Lorsque les parents redemandent la même chose à leur enfant, c'est eux qui pêchent. Parce que l'attente que nous devons avoir dans l'obéissance, c'est l'obéissance immédiate. Dans un contexte évidemment de bon sens et de sagesse, parce que demander à un enfant qui est sur un ordinateur, vient à table à la seconde alors qu'il est en plein truc, il faut lui donner 5 minutes pour un peu se mettre dans la tête qu'il doit quitter son activité. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais retenez ce principe, c'est l'obéissance. Je vais vous dire, il n'y a pas de plus grande beauté que l'obéissance dans l'Église et la soumission réciproque. Moi, je suis très sensible à cela. Il n'y a pas de plus grande beauté dans un couple qu'une épouse qui est soumise envers son mari, parce qu'elle glorifie tellement Dieu comme cela. C'est de telle beauté cela, mais dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure à son mari, hein, on peut, on peut être pleinement épanoui dans toutes ses capacités intellectuelles, physiques, morales, tous ses aspects de personnalité tout en étant soumis à son mari. Il n'y a rien de plus beau dans un foyer que de voir des enfants obéissants. Un de nos fils, un jour, allait traverser une route avec une voiture qui arrivait. On l'a appelé, on lui a dit stop, il s'est arrêté immédiatement. Mais s'il n'avait pas obéi, peut-être il ne serait plus là aujourd'hui. Daniel et Sarah, notre fils et notre belle-fille, dimanche dernier, étaient au bord de la route. Il y a un enfant qui a sauté sur la route. Il y a un couple qui est arrivé, qui roulait à l'allure normale. Ils l'ont frappé. Et l'enfant est mort le lendemain. Ils ont pris les parents dans les bras, ils ont amené l'enfant à l'hôpital, et l'enfant est mort. Il faut donner un cadre aux enfants d'obéissance. Est-ce que d'aller jouer sur une route, c'est normal? C'est terrible cela. L'obéissance, c'est un fruit extraordinaire du Saint-Esprit. C'est de toute beauté. Quand on voit l'obéissance immédiate de bon cœur, hein, parce qu'on peut faire des choses par contrainte, mais ce n'est pas une vraie obéissance. La soumission, c'est un acte positif et c'est un acte volontaire qui est accepté joyeusement. C'est sûr qu'il faudrait développer un peu plus là. Mais retenons en tout cas ce principe. Et puis la femme a tellement... est tellement précieuse pour l'homme, le mari, elle lui vient en aide et c'est extraordinaire comment une femme complète. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Comment la femme a été faite pour compléter l'homme. Et donc il y a un grand respect du mari envers son épouse parce qu'il sait qu'il en a besoin. Nous qui sommes mariés, nous savons. Si nous nous sommes mariés, c'est bien parce qu'on est tombé amoureux et on se sentait un peu malheureux tout seul, non? Moi, j'étais célibataire jusqu'à l'âge de 29 ans. Je trouvais ça difficile hein, d'attendre, de trouver l'élu de mon cœur. Alors, une bonne compréhension de la responsabilité de l'épouse. On va regarder la responsabilité de l'époux. Vous allez me dire, oui, mais c'est difficile de se soumettre. Eh bien, écoutez, j'aimerais dire une chose. C'est que je crois que c'est impossible de le faire avec un cœur pur, à moins d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est... Alors je vais le dire comme ça, c'est peut-être encore plus impossible pour l'homme en tant que mari d'être un leader, d'être un chef de foyer. C'est pour ça qu'il y a tant de pères, n'est-ce pas, qui n'élèvent plus leurs enfants, tant de maris qui, n'est-ce pas, vont ailleurs parce qu'ils quittent leur rôle. Parce que d'être un vrai responsable dans un foyer, ça prend du temps, ça prend vraiment de la prière, ça prend de l'humilité, ça prend de la dépendance avec Dieu et la confession. Il est écrit ceci, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc ça, c'est un texte clé ici. La Bible dit que le mari est le chef de la femme. Dieu, lorsqu'il a institué le mariage, il a voulu qu'il y ait un chef entre l'homme et la femme, il a choisi l'homme. Et c'est l'homme qui est le chef de la femme. Il n'y a pas deux têtes dans un couple, dans le sens de conduire, c'est le mari. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dialogue, qu'il n'y a pas soumission réciproque, prière ensemble et recherche de la volonté de Dieu. Mais la femme doit apprendre à favoriser le leadership du mari, mais le mari doit conduire comme un vrai chef qui a envie de suivre un mauvais chef, personne. D'être maltraité, personne. D'être traité injustement ou avec violence, personne. Je ne sais pas, récemment j'ai lu dans une revue hebdomadaire, c'est incroyable, les milliers de femmes qui sont battues en France. Tous les jours, des centaines de femmes sont battues. Violence physique, sexuelle, c'est incroyable. Le mari doit être un chef, à l'exemple de Christ. Et qu'est-ce que nous donne Christ comme modèle? C'est qu'il s'est donné. Il s'est donné entièrement à son Église pour la sauver, pour la racheter. Verset 25, Marie, que chacun aime sa femme. Voyez-vous, c'est écrit chacun. Chacune doit être soumise et chacun doit aimer. Oh, moi, j'ai difficulté à aimer ma femme. Regardez le trait de caractère qu'elle a. Ah non, tu dois aimer quand même parce que c'est écrit que chacun aime sa femme. Aimer d'un amour total, inconditionnel. Pas je t'aime si tu... Non, je t'aime parce que je t'aime. C'est ça le vrai amour de Dieu. L'amour agapé, l'amour divin, c'est je t'aime parce que je t'aime. Je t'aime pas parce que... Ça, c'est déjà une manipulation, une attente qui est injuste. Je t'aime parce que je t'aime et je t'aime comme tu es. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Qu'est-ce qu'il a fait, Christ, envers l'Église? Il s'est donné. Il s'est donné totalement envers et pour l'Église. Et il s'est lui-même livré pour elle. Dans les organes, il est mort pour l'Église. Alors le mari n'est peut-être pas appelé à mourir martyr pour sa femme. Moi je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote, me vient à l'esprit, ça va peut-être vous faire sourire. Jeune marié, on avait déjà un enfant, on va dans un camp au Québec, et tout, on avait entendu en partant pour la première fois, c'est la première fois qu'on allait dans un camp, mais dans un endroit sauvage au possible. Mais sauvage, au fin fond de la forêt, avec des maringouins, des moustiques partout, on avait après des ganglions partout. Et on apprend en partant qu'il y a un ours affamé qui est entré dans une colonie de vacances au nord de Montréal et qui a dévoré un enfant. Nous, petits Français au Québec, ça a tourné dans la tête. On s'est dit, oh là là, il y a des ours, c'est vrai, à Québec. Puis on entend parler, quand vous allez à la pêche, dans les pourvoiries, on vous fait dire, mais attendez, n'allez pas là, ne laissez aucune nourriture là. Pourquoi? Ben, il y a des ours. Bon, alors on sait qu'il y a des ours au Québec. On va arrêter de raconter l'histoire des ours. Et donc, en plein milieu de la nuit, on nous met, savez-vous quoi, à l'extrémité du camp, tout proche de la forêt, dans une tente roulotte, ma femme, moi et nos petits garçons Daniel. Et dans la nuit, j'entends des bruits bizarres. Il me dit, oh là là, c'est terrible. Vous avez compris comment l'imagination est montée à la tête. J'ai dit, ça y est, un ours proche du camp. Et là, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, ok, je vais me jeter sur mon fils pour le protéger. Puis ma femme aussi. Et tout d'un coup, je me dis, mais il faut être prêt à mourir pour la famille. Alors peut-être que Dieu ne vous appelle pas à mourir pour la famille, n'est-ce pas, face au danger de l'ours. Mais peut-être que le mari doit apprendre à mourir à soi-même. Ça, c'est dur, ça. Le brisement. Roy Hesson, dans son livre Le chemin du calvaire, dit ceci. L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. L'humilité est le seul escalier d'honneur dans le royaume de Dieu. Le mari est appelé beaucoup à s'humilier pour être un bon leader, un bon chef. Et à s'humilier, à demander pardon à son épouse, à ses enfants, et à savoir chercher devant Dieu la sagesse de Dieu. Ne pas être conduit par son propre cœur, mais d'être conduit par Dieu. Qui n'a pas envie de suivre quelqu'un qui sait où il va parce qu'il suit Dieu? Vous êtes en contact avec quelqu'un de spirituel, il a de l'influence dans votre vie, parce qu'il sait où il va, parce que vous voyez sa communion avec Dieu, parce qu'il aime Dieu, il aime sa parole, il prend soin de vous selon la parole. Le mari doit prendre soin de son épouse selon la parole de Dieu, selon ce que dit Dieu, pas ses propres sentiments ou sa façon de penser, peut-être héritée de ses pères, le modèle divin, selon le modèle de la parole de Dieu. Alors il est écrit que Christ s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. L'eau de la parole, sanctifiant en la purifiant. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais le rôle du mari, c'est de rapprocher l'épouse le plus proche possible de Dieu lui-même. Le plan de Dieu pour un mari, c'est que sa spiritualité favorise la proximité avec Dieu. Et même, je dirais, si on lit au verset 27, ça continue, « Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » En tout cas, il y a un principe ici, c'est que Christ prépare son église pour qu'elle soit, face à Dieu dans l'éternité, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Comment un mari peut sanctifier, purifier son foyer, si ce n'est par la présence de la parole? Et un jour se présenter devant Dieu dans les cieux, moi et ma maison, nous avons servi l'Éternel et nous l'avons servi selon la parole de Dieu. Nous avons glorifié Dieu dans notre foyer parce que la parole était au centre. Le mari est responsable devant Dieu d'enseigner les Écritures au sein de son foyer. Ça ne veut pas dire que l'épouse ne soit pas capable, hein. Ça ne veut pas dire cela. Mais la responsabilité première. Et si vous lisez, alors je vous invite... Bon, dimanche prochain, on va avoir les groupes de maison. L'autre dimanche, je serai à Bordeaux, mais l'autre dimanche, venez. On va parler de l'éducation des enfants par les pères. Savez-vous, si vous lisez, je l'ai fait hier, en préparant le message sur les pères. J'ai regardé le mot père au singulier, au pluriel, dans le livre des Proverbes. Comment se fait-il que pour l'éducation des enfants, il y a deux versets seulement dans le Nouveau Testament? qui parle de l'éducation. Puis ça s'adresse au père. Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les et corrigez-les selon le Seigneur. Mais il y a plein d'instructions dans l'Ancien Testament. Le livre des Proverbes, c'est le livre de l'éducation des enfants. Et vous savez sur quoi met ce livre l'accent ? Sur le fait que c'est le père qui est responsable de l'éducation des enfants. Le père est responsable de l'éducation des enfants. Il est responsable d'instruire, il est responsable de châtier, il est responsable d'entourer, de prendre soin de ses enfants. Donc le rôle du mari, c'est un rôle de chef. Quel est le modèle parfait que l'on trouve dans la Bible? C'est certainement le modèle de Jésus-Christ. En fait, le grand modèle, c'est Jésus-Christ. Merci. Alors, le mari doit diriger et servir. Il doit diriger et servir comme Christ. Et là, il y a trois versets bibliques qui sont mentionnés ici sous vos yeux. C'est Philippiens chapitre 2. Du Christ est descendu du ciel. Il s'est rendu, tiens, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Vous ne voulez pas d'obéissance dans votre vie, alors ne suivez pas Jésus-Christ, parce que vous allez devoir apprendre à obéir. Et même en hébreu, ça me vient à l'esprit, mais c'est un passage assez extraordinaire, il est écrit ceci: bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Fils de Dieu s'est humilié. Un jour dans mon bureau ici, en étudiant pour les groupes de maison, quand on étudiait le livre de Philippiens, un passage avec un bon commentaire. J'avais vraiment désiré au fond de mon cœur comprendre ce texte de Philippiens chapitre 2. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, en existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, etc. Il s'est dépouillé lui-même. Il disait: Seigneur, mais j'ai du mal à saisir ce passage. Et quand Dieu me l'a enseigné, je peux vous dire que j'ai vraiment été bouleversé. J'ai pleuré de voir comment Dieu fait homme, s'est humilié dans toutes ses étapes. Donc, par obéissance, il y a sept étapes dans ce texte ici, où Christ a descendu les marches du royaume de Dieu céleste pour venir sur la terre, avec un effort: oui, me voici, envoie-moi. L'humilité, l'humiliation, sept étapes d'humiliation. Pour être un bon chef, comme a été Jésus, il faut apprendre à obéir et s'humilier, à l'exemple de Jésus. D'abord, il s'est humilié devant Dieu le Père. Ensuite, il est écrit en Matthieu 20, je vous lis le texte, vous l'avez sous les yeux, la référence, mais en Matthieu chapitre 20, il est écrit au verset 25, Jésus les appela et dit à propos d'ici, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent, parce qu'il y en a qui voulaient être, vous savez, les premiers à côté de Jésus dans le royaume de Dieu. Allez, leur dit ceci: il ne sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Vous voulez être grand comme Marie? Devenez serviteur. Je dis dans les mariages, bon, ça y est, j'ai perdu mon scoop. Vous voulez être un roi? Faites de votre femme une reine. Une reine doit avoir un roi. Mais si vous faites de votre femme une reine, vous allez être roi. Une reine a besoin d'un roi. Faites de votre épouse une reine et vous allez être un roi, dans le bon sens du terme. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ça le service. Dans le grec ici, quand Jésus dit qu'il est serviteur, c'est doulos, qui a donné le mot français douleur, et qui est traduit en fait par esclave. Les mots souvent dans notre Bible, notre traduction, quand il est écrit serviteur, on devrait traduire par esclave. Un serviteur, c'est celui qui sert, qui accepte qu'il y a un maître au-dessus de lui et qui accepte de se soumettre à un maître. Donc le mari accepte de se soumettre à Christ pour être un bon leader. Il sert Dieu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On dit que les hommes sont égoïstes, ils préfèrent aller jouer au golf, allez, on va dire le tennis, le football et bien d'autres sports, avoir les copains, que de penser à sa femme. Donc la première mort à soi-même, pour l'homme, c'est peut-être l'orgueil, ses ambitions, l'égoïsme, penser à soi. Puis la Bible dit, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible, que l'homme a tendance vraiment à penser à lui. Regardez ce qui est écrit ici, vous le lisez en Éphésiens. Il dit ceci: c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, etc. L'homme prend soin de lui, hein, le mari, mais il doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Donc il doit prendre soin d'elle. La priorité du mari, c'est qu'est-ce que je peux faire pour te faire du bien, de même que l'épouse peut le dire aussi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer selon Dieu? Il faut apprendre à aimer. Bon, ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés, ma femme et moi. Je pense qu'on a trouvé au travers de ces années des leçons qu'on a dû apprendre de la part de Dieu. Mais apprendre à aimer, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et ça demande du brisement. Quand Jésus est allé vers ses disciples, en Jean chapitre 13, il a servi les disciples. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a lavé les pieds. Il a pris sa tunique. Vous savez, il n'avait pas grand-chose, le Seigneur. Le peu qu'il avait, il a pris, il a lavé les pieds. Et Pierre a dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Parce que, enfin, on ne va pas aller dans l'exégèse du texte ici, mais l'idée, c'est que Jésus a voulu leur montrer que c'est lui qu'on appelle maître et serviteur de tous. Alors les disciples, entre eux, doivent apprendre à se servir. C'est pour ça qu'il y a des églises qui pratiquent le lavage des pieds. Ben, dimanche matin, ici, on va mettre une bassine, et puis on va tirer au sort chacun de nous, et l'un va dire, voilà, c'est toi qui vas laver les pieds. Alors peut-être les femmes d'un côté, les hommes d'un autre. Ça, c'est pratique, ça. Il y a des baptistes Landmark qui font ça. Ils se lavent les pieds pour montrer qu'on doit être humbles les uns vers les autres. Mais à cette époque, on avait besoin de laver les pieds, parce qu'on marchait, on n'avait pas toujours des chaussures, et puis les pieds s'abîmaient, il y avait peut-être des blessures qui avaient besoin de guérir, ou des échardes, et donc laver les pieds de quelqu'un, c'était prendre soin de la personne. C'est ça qu'il faut retenir, on n'a pas besoin de se laver les pieds ici. Hein? D'ailleurs, tout le monde se laverait les pieds avant pour être sûr que hein, ça ne sent pas trop mauvais. Mais ce n'est pas ça le principe. Le principe, c'est d'être assez humble pour dire, je me mets au service de toi, mon frère ou ma sœur. Moi, quand je vois quelqu'un, alors, chacun est sensible, peut-être, divin. Mais quand je vois quelqu'un qui a un esprit de service et qui rend service joyeusement et qui le fait spontanément, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous avez découvert ça chez moi, mais je suis brisé intérieurement. Vous ne pouvez pas savoir, quand je vois quelqu'un qui sert avec amour, qui veut faire du bien envers un autre, qui manifeste d'une manière ou d'une autre de l'amour, mais c'est très précieux. Vous savez, il y a des gens ici qui ont travaillé très fort pour ce bâtiment, qui l'ont fait par amour pour Dieu. Vous n'étiez peut-être pas là, mais il y a des gens qui ont travaillé très fort pour bâtir tous ces murs, poser les fenêtres, poser le faux plafond, mettre le carrelage, et gloire à Dieu. Et ça, c'est l'expression de l'amour. Est-ce que nous prenons soin de nous servir les uns les autres? Vous savez, quelqu'un a dit, lorsque nous nous servons tous les uns les autres, tout le monde est servi. Vous avez compris? Lorsque nous nous servons tous, tout le monde est servi. Ce n'est pas un qui dirige tout. Non, on se sert les uns les autres, c'est merveilleux. Un homme doit apprendre à servir sa femme, à aimer sa femme comme lui-même. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Il en prend pas mal soin souvent. Donc il faut qu'il aime comme cela. Et puis verset 33, il est écrit, « De reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Donc dans la soumission, il y a le respect. On va terminer comme cela, mais je voudrais juste dire un mot. Jésus-Christ a été non seulement un serviteur, mais un chef envers ses disciples. Il a passé du temps avec ses disciples, il savait les diriger, il savait quoi leur dire, il savait les enseigner, les instruire, parfois il les reprenait. Il y avait une permanence de Jésus, de sa présence envers ses disciples. Il ne les a pas abandonnés. Il a pris soin d'eux. Même quand il leur a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, ils ne réalisaient peut-être pas ce que ça voulait dire, mais quand on aime quelqu'un, qu'on le voit partir, ça fait quelque chose, n'est-ce pas? Et Jésus partait, laissait ses disciples, ils allaient être comme orphelins. Non, je vous enverrai le Consolateur, le Paraclet, celui qui va se tenir à côté de vous, en vous, qui demeurera éternellement avec vous. Jésus a pris soin de ses disciples. Il les a dirigés, il les a enseignés, il a été un modèle parfait. Un modèle parfait. Et quand on regarde la façon avec laquelle Jésus a formé ses disciples, on a, nous, en tant que mari, un modèle de ce que c'est être un chef. Jésus passait du temps où? Dans la prière. Pourtant, il était Dieu, hein? Il passait du temps la nuit et dans la journée dans la prière pour connaître la volonté de Dieu. D'être papa, c'est pas facile. D'être mari, c'est pas facile. Mais en priant, en s'humiliant, en cherchant la face de Dieu, Dieu nous donne un don particulier d'aimer, de façon à aimer l'autre pour la gloire de Dieu. Et je pense que c'est vrai aussi pour l'épouse. Donc, mari et femme, humilions-nous devant Dieu. Prenons le soin de prier, de demander à Dieu de nous diriger, de savoir comment aimer l'autre. Sachant que la femme est appelée, dans le cadre du mariage, qui est un plan pour toujours, aux yeux de Dieu, la femme est appelée à se soumettre et à être une aide envers son mari. Et le mari est appelé à être un chef serviteur et puis à aimer son épouse. Prions que Dieu nous aide à être de bons maris, de bonnes épouses et, dans 15 jours, de bons pères et de bonnes mères pour élever les enfants. Vous serez là. On prie. Merci Seigneur de nous accorder ta présence et merci pour, même si c'est bon, la fête des pères, c'est bien commercial, mais merci Père de ce que tu nous as donné, tout ce qui contribue à la foi et à la piété pour être des bons pères de famille. Nous t'en remercions Seigneur pour ce jour particulier de la fête des pères. Au nom de Christ. Amen.